Radio Campus 88.3. Méfiez-vous, ils sont là.
USS 117. USS 117, le magazine de l'économie sociale et solidaire en région Centre-Val de Loire. Ce programme vous est proposé par la Crèce Sainte en partenariat avec les radios associatives régionales. Bonjour et bienvenue dans ESS 117, votre magazine consacré à l'économie sociale et solidaire en partenariat avec la Crèce Centre Val-de-Loire. Alors ESS 117 fait sa rentrée avec un numéro consacré à l'éducation et à l'économie sociale et solidaire et au rapport entre école et ESS. Alors quand on pense à l'éducation au sein de nos structures d'économie sociale et solidaire, on pense très souvent à l'éducation populaire, puisque de nombreuses associations en ont fait leur cheval de bataille et sont souvent issues d'eux et trouvent leur fondation dans les grands principes de l'éducation populaire, égalité des chances, action collective, développement de l'esprit critique, hors des cadres d'apprentissage traditionnels. Mais ce n'est pas là que nous mènera l'émission aujourd'hui, puisqu'elle sera plutôt consacrée aux relations entre les structures de l'ESS et l'école publique, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, ESS et école, c'est le numéro d'aujourd'hui. Alors, comment promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès des plus jeunes? Nous allons essayer de répondre à cette question avec nos intervenants aujourd'hui. Sophie Caldaguès, chargée d'accompagnement du réseau national des correspondants régionaux Est de la France pour l'ESPER, économie sociale, partenaire de l'École de la République. Bonjour. Vous êtes là?
Bonjour.
Bonjour, Sophie. Avec nous également Manon Bongo, vous êtes chargée de mission sensibilisation à l'ESS pour la Crèce Centre-Val-de-Loire, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Olivier Ponté-Garcia, vous êtes responsable des relations institutionnelles et ESS pour la MGEN. Bonjour.
Bonjour.
Alors en effet, comment promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès des plus jeunes? Comment sensibiliser les jeunes au principe de l'ESS et notamment à celui de la non-lucrativité? Comment les structures de l'ESS peuvent-elles agir sur les inégalités sociales et sensibiliser les jeunes à une société où il y aurait plus de justice, de fraternité, d'égalité sociale et d'engagement? Alors on va répondre avec vous à ces questions. Il y a des textes de référence, bien sûr, qui encadrent ces principes d'éducation et d'ESS. C'est notamment le manifeste pour l'éducation à l'ESS qui a visé en 2012 à donner toute sa place à l'économie sociale et solidaire dans le système éducatif, et puis l'accord cadre qui a été signé en 2013 entre les ministères de l'éducation nationale, l'ESS et l'ESPER, et puis l'accord cadre entre les ministères de l'ESS, enfin le secrétariat à l'ESS et l'ESPER pour tout ce qui va concerner l'enseignement supérieur et la recherche. Alors on va parler de tout ça ensemble, mais tout d'abord on va écouter un petit peu de musique et puis on se retrouve dans quelques instants en effet avec Sophie Caldaguès, Manon Bongo et Olivier Ponté-Garcia en fait pour aborder ce sujet. On écoute tout de suite Cooking on Three Burners et puis on revient juste après sur Campus.
I'm coming home, yeah.
right here, right now. Look in my eyes. I'm here for you and love's a prize. No time to spare. I'm almost there. Steps back to back. Stay on track.
I'm coming home to you, Stella Angelico with Cooking on Three Burners. C'était notre pause musicale dans ESS 117. Alors on est là aujourd'hui pour parler de l'éducation à l'économie sociale et solidaire. Comment on peut en effet intéresser, sensibiliser et promouvoir en fait auprès des plus jeunes eh bien, les principes et puis même en fait peut-être les actions des structures de l'économie sociale et solidaire. Alors avec nous pour en parler, Sophie Galdakès, vous êtes chargée d'accompagnement du réseau national des correspondants régionaux pour l'Est de la France pour l'ESPER. Alors qu'est-ce que l'ESPER, économie sociale partenaire de l'École de la République? C'est une association à la croisée des mondes de l'éducation et de l'ESS. Alors est-ce que vous pouvez nous la présenter davantage, Sophie Galdakès? Quels sont les membres qui la composent? Depuis quand existe-t-elle et pourquoi elle a été créée?
Bien sûr, merci beaucoup. L'association L'ESPER, ça existe depuis les années 1970. C'était un groupement d'enseignants qui s'étaient regroupés pour enseigner autrement. En 2010, c'est devenu L'ESPER, l'économie sociale partenaire de l'École de la République. On est un collectif de 41 organisations à la croisée des mondes entre l'éducation et l'ESS. Nous avons notamment des membres comme la MGEN, la MAIF, la Ligue de l'enseignement, la DOZEN et des syndicats. Notre objectif, c'est vraiment d'éduquer à l'économie sociale et solidaire. Et pour cela, nous avons signé des accords cadres nationaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les ministères. Nous, on est 4 salariés à Paris et on anime dans les régions les dispositifs de l'ESPER par des bénévoles qui viennent des organisations membres. Et on propose des outils pédagogiques qui sont animés par nous, construits par nous, dont les bénévoles sont d'anciens enseignants. Voilà à peu près pour l'ESPER.
Alors, quelles valeurs rassemblent aujourd'hui encore ces associations qui la composent, ces associations, et pas seulement des associations d'ailleurs?
Tout à fait. Les valeurs qui nous rassemblent, c'est vraiment les valeurs de l'ESS. Donc ça peut être la citoyenneté, l'engagement, l'utilité sociale, la coopération. Et notre but, c'est vraiment de renforcer le pouvoir d'agir des élèves.
Et alors justement, sur quel constat encore aujourd'hui, en effet, il faut éduquer à une autre façon de penser l'économie. Voilà, on se doute en effet que si on ne le fait pas, on sera tous dans un monde ultra capitaliste. C'est ça l'enjeu?
Oui, tout à fait. Nous, on veut ouvrir les portes, on veut ouvrir le champ des possibles en montrant qu'il existe une autre économie alternative qui répond aux enjeux de société aujourd'hui, parce qu'on a vu que les entreprises de l'ESS sont beaucoup plus résilientes, tournées vers l'humain, par exemple.
Alors aujourd'hui, quels sont les moyens d'action en fait de l'ESPER particulièrement et des structures qui la composent?
On a plusieurs actions. On a notre action phare qui s'appelle Mon entreprise sociale et solidaire à l'école, qui consiste à expérimenter un projet collectif, coopératif et d'utilité sociale, et les élèves créent une mini-entreprise de l'économie sociale et solidaire en classe. Le but, c'est de faire vivre les valeurs de l'ESS, telles que je l'ai dit tout à l'heure. Et cette année, ça sera la 8e édition du dispositif. Et on a à peu près 200 entreprises de l'ESS créées par an dans les classes. On a aussi la semaine de l'ESS à l'école, qui est inscrite au calendrier de l'éducation nationale, à peu près tous les ans, fin mars, début avril, où là, ce sont des actions plus ponctuelles, des temps forts de valorisation, par exemple des interviews d'élèves dans la presse, par la radio, voilà. Et on a aussi la formation des équipes éducatives et des bénévoles, des membres et des partenaires de l'ESPER, par le biais d'outils que l'on crée nous-mêmes.
Alors comment l'ESPER rentre, entre guillemets, à l'école ? Comment justement on peut monter un projet éducatif qui soit lié à l'ESS quand on est un enseignant, par exemple, ou un chef d'établissement ? Comment le lien se crée, en fait ?
On est surtout en lien avec les chargés mission école-entreprise. Donc, ce sont des personnes de l'éducation nationale qui font le lien avec, entre le monde professionnel et l'école. Et si un enseignant ou un chef d'établissement veut s'inscrire dans notre démarche, il va sur le site, il nous cherche sur Internet et il remplit un formulaire et ensuite on le recontacte. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font de l'ESS en classe sans le savoir.
Quand ils font notamment des actions autour de l'environnement,
exactement,
par exemple.
Des collectes de bouchons, de piles, des AMAP.
Oui, il y a déjà des grandes valeurs de solidarité qui sont promues à l'école, en effet.
Il existe des semaines de la solidarité, je crois aussi. En fait, l'ESS, ça regroupe beaucoup de thématiques. Ce qui est bien, c'est que ça permet de fédérer autour d'un objectif commun, qui est la transformation de la société.
Alors, on en parlait tout à l'heure, hein. Vous mettez à disposition en effet des outils pour les acteurs de l'éducation, hein, notamment ces fameux chargés de mission éducative, c'est ça, ou même oui, directement à disposition des enseignants ou des chefs d'établissement. Quels sont ces outils, quelles sont ces ressources ?
Ce sont des jeux, principalement des quiz, des études de cas, qui sont créés par un comité scientifique composé d'acteurs du monde de l'éducation et de l'ESS qui réfléchissent ensemble aux différents niveaux, par exemple primaire, collège, lycée, enseignement supérieur. Et ça peut être faire passer les messages de l'ESS par des jeux de cartes.
Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes de ces ressources ? Notamment, il y a des jeux qui sont notamment assez intéressants et particulièrement qui donne envie en fait aux enseignants comme aux élèves de découvrir davantage en effet tout ce qui va composer l'ESS.
Bien sûr. Alors le dernier jeu qu'on a sorti entre guillemets, ça s'appelle Ressources ESS, Chrono ESS. C'est donc sur la base du timeline. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de société Timeline. Donc, vous avez des cartes avec des dates. Et en gros, sur le verso, il y a la date, sur le recto, il n'y a pas la date. Et les élèves jouent en groupe et ils doivent remettre en ordre chronologique les cartes de l'histoire de l'ESS, par exemple. Donc c'est ludique et ça plaît bien.
Ok. Est-ce que il y a également des dossiers, des cartes Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de ressources comme ça, pédagogiques ?
Oui, bien sûr. Nous avons un jeu que nous utilisons souvent en première intervention dans les écoles, qui s'appelle la Junior Coopérative. Ça se présente par quatre histoires, quatre petits scénarios qui décrivent une structure de l'ESS. Donc, par exemple, un chef d'entreprise menuisier qui part à la retraite, et les salariés de ce chef d'entreprise reprennent la menuiserie et la transforment en scope. Et en fait, suite à l'ordre du contexte de projet des cartes, les élèves remettent en ordre et découvrent les structures de l'ESS. Comme ça, c'est un peu compliqué d'en parler, mais sur place, c'est beaucoup plus facile à s'en emparer.
Alors, il y a quelque chose qui est très parlant. Hein. C'est une étude de cas adaptée à un public de collégiens et de lycéens qui vise à comparer une entreprise classique capitaliste type Nike et une entreprise de l'ESS, une épicerie solidaire. C'est un bon outil d'introduction à l'ESS en classe. Alors, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas non plus réservé aux collégiens ou aux lycéens. On reste sur des choses qui sont aussi destinées à un public, comment dire, assez large et qui n'est pas c'est pour les 10 ans, 12 ans, et puis après, pour les 16, 17 ans, voilà. On est à la découverte de ce qui caractérise les entreprises de l'ESS. Alors, une étude de cas, en effet, les élèves lisent un petit peu la présentation des deux entreprises. Et puis, un groupe sur deux remplit un tableau pour l'une et l'autre des deux entreprises. Et puis après, on échange, en effet, sur à la fois les valeurs, les actions et comment, justement, faire en sorte que... on arrive à différencier des structures ESS et des structures qui ne sont pas de l'économie sociale et solidaire et qui sont sans doute moins bienveillantes, on va dire. Voilà, donc il y a tout un tas de ressources comme ça que vous mettez à disposition des enseignants. Comment s'en empare-t-il ? Est-ce que justement c'est quelque chose qui a beaucoup de succès ? Et comment justement, quel retour vous avez des enseignants à ce niveau-là ?
Alors oui, a priori, ça a plutôt du succès. Tout ce qui passe par de l'éducation autrement que des cours descendants, par exemple, d'histoire ou de droit ou d'économie, on voit que les élèves sont beaucoup plus contents d'apprendre de façon ludique et pédagogique.
Alors, il y a notamment... Excusez-moi.
Comment les enseignants s'en emparent ? On est en train de faire aussi un peu une... comment dire ?
Une enquête.
Une enquête sur ce que les enseignants utilisent ou pas. Pour l'instant, on n'a pas les données. Mais je peux vous parler du livret pédagogique numérique qu'on a mis à disposition aussi des enseignants impliqués dans mon entreprise sociale et solidaire à l'école. Donc, c'est sur Geniali. Et c'est un livret en libre accès qui suit les étapes du projet et les enseignants peuvent aller pour chaque étape, par exemple le début du projet, le bilan du projet, et pour chaque phase, ils ont une ressource qu'ils peuvent télécharger gratuitement en libre accès. Donc ça, les enseignants s'en emparent pas mal.
ESS 117. Alors, de retour dans notre émission ESS 117, consacrée à l'ESS à l'école, ou pour l'école, par l'école, dans l'école. Sophie Caldagues de l'ESPER, en fait, on continue votre interview. On va maintenant parler de l'université et plus amplement dans l'enseignement supérieur. Comment, justement, on éduque à l'ESS, mais avec les plus grands encore, et quelles sont, en fait, les actions qui sont mises en place avec... justement l'université, l'enseignement supérieur et la recherche.
C'est vrai qu'on est plus spécialisé dans le collège et le lycée, le secondaire. On peut intervenir dans l'université, dans l'enseignement supérieur, mais tout dépend des régions. C'est-à-dire qu'il y a des correspondants régionaux de bénévoles de l'ESPER qui vont avoir des liens avec des IUT, par exemple, des BTS, des licences, des masters. Et en fait, comme les étudiants ont beaucoup de cours de projet, ils peuvent s'inscrire dans la démarche aussi et avoir une réflexion peut-être un peu plus poussée avec des études de cas qu'on peut leur proposer. Mais ils sont plus autonomes, donc on va intervenir moins.
Alors aujourd'hui, on voit également davantage de masters spécialisés dans l'économie sociale et solidaire, par exemple. Ou bien en fait des sujets de thèse en fait qui sont autour de l'économie sociale et solidaire. Alors ça découle également de l'accord cadre qui a été signé en 2013. Comme quoi il fallait davantage en effet que le monde universitaire s'intéresse à ce point de l'économie.
Alors, je ne sais pas si ça découle de l'accord CAD, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai vu qu'il y a de plus en plus de master ESS. Moi-même, je viens d'un master ESS à Paris et il y a un engouement. Hein. C'est sûr que on se rend compte que maintenant, l'ESS peut être une solution aux enjeux de société d'aujourd'hui.
Et puis, via le dispositif Pépite, par exemple, comment on insuffle les valeurs de l'ESS dans le soutien à l'entrepreneuriat étudiant aujourd'hui?
On a quelques liens avec Pépite, on n'a pas encore un partenariat entre guillemets national, mais ce qu'il faudrait qu'on fasse, ça serait de les contacter pour que dans les régions, on puisse insuffler un peu d'ESS dans l'entrepreneuriat classique. Parce que l'entrepreneuriat classique, voilà, il a des règles un peu à visée lucrative. Il faudrait qu'on apprenne à trouver une solution à entreprendre autrement.
Oui, les étudiants pépites, en fait, ils voient peut-être davantage, en effet, l'aspect lucratif ou traditionnel, en effet, de l'entrepreneuriat. Ils sont moins sur un entrepreneuriat solidaire, en fait.
Bah oui, parce que l'entrepreneuriat à la base, c'est vraiment créer son entreprise, c'est générer des bénéfices. Et je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat social, solidaire, qui ne fait pas partie de l'ESS, mais qui commence à émerger, est de plus en plus intéressant. Mais en fait, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils connaissent pas.
Voilà, donc il y a encore du travail à faire.
Oui.
Pour l'ESPER notamment.
Tout à fait.
Et pour la MGEN, en local, on va voir ça tout à l'heure, justement, avec nos autres intervenants, Olivier Pontegarcia et Manon Bongo. On vous remercie beaucoup, Sophie Galdakès. On le rappelle, hein, vous êtes chargée d'accompagnement du réseau national des correspondants régionaux Est de la France pour l'ESPER, l'économie sociale. Partenaire de l'école de la République. Alors vous restez avec nous, bien sûr, hein, puis sentez-vous libre d'intervenir quand vous le voulez. On va faire une petite pause musicale. On revient avec Manon et Olivier dans quelques instants, juste après ce titre de Nicodémus.
Jumpy, 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 ooh. Oh, jumpa, jumpa, jumpa.
Nicodemus avec Patkala, Mama Chip. C'est les petits sons de l'été, hein, c'est pas fini encore. Hein. On a jusqu'au 21 septembre pour faire la fête en musique, même si c'est la rentrée. Et puisque c'est la rentrée, en effet, on parle de l'ESS à l'école avec nos intervenants dans ESS 117. Hein, Sophie Caldagues, chargée d'accompagnement du réseau national des correspondants régionaux pour l'ESPER Est de la France. Olivier Ponté-Garcia, responsable des relations internationales et institutionnelles, pas internationales. Pourquoi pas, après tout. ESS pour la MGEN. Et puis Manon Bongo, chargée de mission sensibilisation à l'ESS pour la CRES Centre-Val-de-Loire, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On est dans votre magazine consacré à l'ESS en région centre. Et d'ailleurs, en fait, Manon Bongo, vous vouliez en fait nous parler davantage, en effet, de l'ESS à l'université et particulièrement via le dispositif Pépite. On en a parlé un petit peu en fait juste avant cette pause musicale. Et vous vouliez ajouter des petites précisions, en effet, à l'université, plus simplement via ce dispositif, on incite les étudiants, on fait plus que les inciter, même on les accompagne à l'entrepreneuriat et justement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, comment justement on les sensibilise?
C'est ça, Pépite, c'est a pour mission de former et accompagner les étudiants à la création d'entreprises. Donc Pépite, c'est un dispositif, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est porté par les établissements d'enseignement supérieur et qui s'associe avec des acteurs économiques territoriaux. Donc nous, notre manière de travailler avec Pépite va plutôt s'inscrire au niveau, par exemple, des jurys de création d'entreprises, au niveau aussi de la sélection des étudiants auto-entrepreneurs. Donc on va les accompagner, on va faire en sorte de les mettre en contact avec tout l'écosystème entrepreneurial de l'ESS. Et on va aussi participer notamment à des journées de sensibilisation à l'ESS, afin que ces étudiants qui ne connaissent pas ou peu l'ESS puissent savoir que cette option est possible, cette économie est possible. À côté de cela, à la CRES, donc moi en tant que chargée de sensibilisation, on instruit aussi des modules au sein des masters. Donc là, cette année, on travaille au sein d'un master géographie et aménagement des territoires, donc master 1 et master 2, où on va d'abord, en première année, faire une introduction générale à ce que c'est que l'ESS, donc présenter les valeurs, présenter aussi les grandes familles de l'ESS et leur donner des exemples concrets, territoriaux, sur du coup les projets ESS. En deuxième année, ce qu'on va faire, c'est plus un module qui s'appelle Défi ESS. C'est une mise en pratique, une introduction à une création d'entreprise ESS. Donc pour cela, on va mettre en place plusieurs petits modules avec des partenaires, donc des acteurs de l'ESS. Donc je sais qu'il y a le mouvement associatif qui intervient, il y a France Active qui intervient, il y a également la MGEN, il y a la Ligue de l'enseignement qui intervient, il y a aussi Artefact qui interviennent pour justement donner des exemples concrets, parler de non seulement leur statut mais aussi leur activité pour pouvoir aussi suivre au maximum ces étudiants. Donc ce défi se divise, comme j'ai dit tout à l'heure, en plusieurs modules. Durant lesquels il y aura non seulement la compréhension précise de ce qu'est un statut ESS, donc de ce qu'est une association, de ce qu'est une mutuelle, pour que ensuite le groupe d'étudiants puisse s'orienter au mieux. On va aussi parler du modèle économique, comment créer une structure pérenne économiquement dans l'ESS. Et à côté de ça, il y aura aussi des visites. Donc il y a certains de nos partenaires, de nos membres de la CRES qui effectuent des visites au sein soit de leurs partenaires ou au sein même de leur structure pour que les étudiants puissent voir concrètement ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Parce qu'on a tendance à penser que l'économie sociale et solidaire, du point de vue des étudiants, c'est quelque chose d'un peu lunaire. Au final, non, ça fait vraiment pleinement partie de notre quotidien.
Et alors, c'est par l'angle des territoires, c'est en géographie que vous intervenez et non en économie-gestion. Voilà.
Alors, c'est vrai qu'on intervient au niveau de, oui, c'est ça, de l'aménagement du territoire. Donc, c'est intéressant parce que, au final, il faut savoir que l'économie sociale et solidaire s'inscrit pleinement dans le développement territorial. Donc, ça, c'est un point qui est très important. On va aussi travailler notamment avec l'UIT de l'Indre, cette fois-ci avec des personnes qui sont en gestion administrative et des entreprises. Donc ça dépend en fait les modules, ça dépend aussi l'appétence du directeur de recherche, du responsable de recherche. Donc avec le BUT, on est sur des étudiants qui sont un peu plus jeunes, donc qui sortent du lycée, et avec eux on va plus travailler sur une présentation générale de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, notamment par des visites toujours au niveau local d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour qu'ils puissent après s'orienter ou savoir que des métiers existent, des emplois existent dans l'économie sociale et solidaire.
Alors il y a des visites, est-ce qu'il y a des rencontres aussi de chefs d'entreprise, de personnes qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, qui viennent présenter leurs projets ici à l'université ou bien dans les IUT en effet?
Alors oui, on aime beaucoup le contact du coup direct avec le terrain. Comme je vous l'ai dit, dans le défi ESS, ce sont des personnes qui travaillent directement dans l'économie sociale et solidaire, et dans ce cas-là bien précis, ce sont des employés qui viennent témoigner aussi de ce qu'ils font dans l'économie sociale et solidaire. À côté de ça, en université, il nous arrive aussi, oui, de faire intervenir des entrepreneurs pour que les étudiants puissent se projeter directement. Pour sortir un peu du cadre universitaire, on a aussi un dispositif qu'on a conventionné avec l'ESPER, l'Académie Orléans-Tours et le rectorat, qui s'appelle les ambassadeurs jeunes ESS, et qui a pour but justement d'aller sensibiliser au sein des établissements scolaires les lycéens et les apprentis à ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc pour être ambassadeur jeunes ESS, il faut réunir trois critères, qui sont d'abord être membre de la CRES ou de l'ESPER. Deuxième critère, c'est de participer à la journée de formation qui est encadrée par la CRES et l'ESPER. Et enfin, avoir signé la charte d'engagement. Donc une fois qu'on devient du coup ambassadeur jeunes ESS, on peut être contacté via un formulaire qui est présent sur le site de la CRES par des établissements scolaires, donc que ce soit par le personnel de l'établissement scolaire, par un enseignant ou par le directeur directement de l'établissement scolaire, afin d'intervenir au sein d'une classe. Donc ce sont des interventions qui peuvent durer au minimum, on s'était dit, 2 heures, mais qui peuvent durer aussi toute une journée, durant laquelle le professionnel de l'économie sociale et solidaire va expliquer son métier aux jeunes. Et ça peut prendre aussi différentes formes. Ça peut aussi être sur la forme d'ateliers, de mise en pratique, de témoignages directs auprès du jeune public.
Voilà, et alors on voit aussi avec vous, Olivier Ponte-Garcia, justement comment on peut, en local en fait, mettre en place et déployer des actions en fait, telles que mon ESS à l'école, la semaine de l'ESS à l'école et différentes formations. Alors on va justement découvrir avec vous la MJEN. Qu'est-ce que c'est la MJEN? Alors on sait que ça a un rapport avec la santé, on se doute un petit peu, et puis EN, ça fait vraiment penser à l'éducation nationale.
Absolument, absolument. MGEN a été fondée en 1946 par des enseignants. Je vais la définir en 4 points. Tout d'abord, c'est la première mutuelle des agents du service public. Elle a, à ce titre-là, un positionnement qui est assez unique en France, puisqu'elle gère à la fois l'assurance maladie obligatoire et la complémentaire santé, prévoyance de plus de 4,2 millions de personnes. Ça, c'est la première chose, c'est son cœur de métier. Le deuxième point, c'est que son modèle, en fait, non lucratif, son taux de redistribution important et ses investissements lui permettent d'accompagner ses adhérents de manière globale, hein, de la prévention des risques jusqu'à, si nécessaire, si besoin, leur prise en charge en établissement de santé mutualiste que MGEN co-gère et co-finance partout en France. Troisième point, MGEN est expert des enjeux spécifiques de santé et de qualité de vie et de conditions de travail des agents. Et à ce titre-là, MGEN accompagne également les employeurs pour le bien-être de leur personnel et on peut dire qu'elles contribuent ainsi à la performance globale et à l'attractivité du service public. Et dernière chose, pour présenter MGEN, c'est un acteur engagé, un acteur de l'ESS, un acteur engagé pour le progrès social depuis toujours. Hier, de l'accès à l'IVG pour les femmes, à aujourd'hui, où MGEN milite pour une fin de vie libre et choisie.
Et alors justement, pourquoi la MGEN s'est engagée dans la valorisation de l'économie sociale et solidaire depuis de nombreuses années? Quelles sont les valeurs qui vous transcendent, on va dire?
Je le disais en introduction, MGEN est un acteur de l'économie sociale et solidaire. C'est son essence même. MGEN est une mutuelle, une vraie. Et ça, je crois que c'est un terme qu'on utilise qui peut paraître parfois un peu galvaudé ou qui est utilisé à mauvais escient, mais en tout cas, ça fait la différence. La raison d'être MGEN, qu'on a adoptée à nos assemblées générales il y a 2 ans de cela, se veut sociale et solidaire. Quelques mots, je peux vous la lire rapidement. C'est engagé pour le progrès social et la santé de tous. Nous, collectifs mutualistes, au service de l'intérêt général, prenons soin les uns des autres tout au long de la vie. Et cette raison d'être, en fait, elle est accompagnée de grands principes d'action. D'inventer au quotidien, chaque jour, des solutions audacieuses et durables, de nourrir des relations humaines de proximité, d'ouvrir des espaces d'engagement militant aux adhérents, mais également à nos collaborateurs pour enrichir sans cesse notre dialogue démocratique. Quatrième point, faire de l'éducation et de la prévention les piliers de notre action pour l'émancipation, parce que, comme je le disais, hein, on se place bien au service de l'intérêt général. Alors, tout à l'heure, je parlais du modèle non lucratif de MGEN. MGEN, acteur de l'ESS, ne reverse aucun dividende à aucun actionnaire. Et près de 80% de ses cotisations sont reversées au bénéfice des adhérents MGEN. Les offres que l'on propose en santé et en prévoyance, elles sont solidaires. On ne sélectionne pas nos adhérents, on ne les sélectionne pas par rapport à l'âge, ni leur état de santé, ni leur revenu. Et nos offres, en fait, elles sont solidaires, c'est-à-dire que il y a une solidarité entre les bien portants et puis ceux qui sont malades, entre les hauts et les bas revenus, par exemple. Nos orientations stratégiques sont commandées par le principe démocratique, un adhérent, une voix. Ça, c'est important, c'est notre essence. Donc on a envie, en fait, de le transmettre aux plus jeunes, parce que c'est leur montrer qu'on peut faire les choses, on peut entreprendre d'une façon différente. Une façon qui est basée sur la coopération, sur des principes et des valeurs qui sont en forte résonance avec aujourd'hui les besoins et les attendus de la société, et en particulier des jeunes. Et tout à l'heure, on parlait de l'université, mais également de l'enseignement de l'économie sociale et solidaire, par exemple au lycée. Et moi, je crois que... En tout cas, ce que je regrette, c'est que, certes, on intervient, on parle de coopération, mais finalement, au lycée et à l'université, l'ESS n'est pas tant enseigné que ça. Ou en tout cas, elle n'est pas nommée en tant que telle. Il existe, je crois, alors j'espère ne pas me tromper, mais... 80 hein, formations universitaires, master universitaires autour de l'ESS en France, c'est peu. Dans les facultés d'économie, de sciences économiques, sont plutôt aujourd'hui, et ça on peut le regretter, des enseignants qui font la part belle au libéralisme, hein, des enseignants orthodoxes. Et c'est pour ça qu'on a un enjeu à intervenir, parce que l'ESS représente quand même une part non négligeable des emplois en France, près de 11%. Cette forme d'entreprendre est trop peu médiatisée, trop peu valorisée dans un monde où le capitalisme et la compétition finalement sont rois.
Et on le disait, hein, sur des filières en fait, qui sont moins en effet de l'économie pure et dure, hein, qui en effet sont souvent liées eh bien, au libéralisme, on assiste en fait quand même au développement de nouvelles formations qui sont dédiées à l'USS. Il faut en fait passer par le biais en effet des structures ou des domaines de l'ESS comme la transition écologique, la solidarité, entreprendre autrement, qui sont en effet des alternatives. Et vous pensez que l'université ne promeut pas suffisamment ces alternatives ?
Pas assez. Et on peut le regretter parce que... Alors, je ne dis pas que rien n'est fait. Hein,
non, s'entend. Non, loin de là. Hein.
Mais, d'une manière générale, en fait, ce n'est pas la vision économique dominante. Et pour autant, elle est importante, l'économie sociale et solidaire, parce qu'elle a, depuis toujours, été... pionnière, vous parlez de développement durable, elle a fait la part belle à l'économie circulaire, à l'industrie durable, elle a été promotrice des genres, elle s'appuie sur les besoins locaux, donc elle favorise le développement local, elle est au plus près du terrain, elle permet de, et on l'a vu notamment de nouveau avec la crise sanitaire, elle permet de mieux absorber les chocs économiques et sociaux, donc elle a fait ses preuves depuis toujours, elle a été à l'initiative de bon nombre d'innovations qui font notre quotidien aujourd'hui, et malheureusement, elle est trop peu enseignée. Donc c'est pour ça que nous, on a envie, MGEN, mais également en tant que partie prenante de l'ESPER, l'envie d'intervenir dans les classes auprès des plus jeunes pour leur montrer en fait la réalité de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, ce que ça comprend dans leur quotidien, et mettre aussi des mots sur les choses, en fait.
Oui, c'est aussi l'une des ambitions de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'avec l'université, on cherche vraiment à développer la présence de l'ESS au sein de cursus en lien avec le développement territorial, le développement économique, ou encore des filières axées vers le développement durable, avec toujours cette idée de démontrer que l'ESS est la solution aux enjeux actuels.
Et via le sport et la culture également.
Exactement.
Alors, on parle des actions locales effectuées par la MGEN dans le cadre notamment d'un dispositif qui s'appelle Mon ESS à l'école. Alors, comment les projets, en effet, sont-ils montés avec les enseignants et perçus par les élèves et l'ensemble de la communauté écolière, on va dire ?
Alors... comment MGEN intervient dans le cadre de Mon ESS à l'école, mais plus globalement, hein, on pourrait aussi citer, Sophie le faisait tout à l'heure, la semaine de l'ESS à l'école qui a lieu fin mars, ou...
Des formations qui sont données aux enseignants également.
Exactement. Alors, MGEN est l'une des constituantes, en fait, de l'ESPER, et elle n'est pas le seul, mais elle est l'un de ses moteurs. Donc, nos militants, on en a... de nombreux sur le territoire. On a en région centre 16 militants permanents et 120 élus. Nos militants, ils sont formés et ils constituent une partie en fait des troupes, si je puis dire, de l'ESPER. Et du coup, ils ont l'habitude d'intervenir en son nom devant les élèves lorsque cette dernière reçoit une sollicitation pour une sensibilisation à l'ESS. Et parfois, cette sollicitation, elle passe directement par MGEN, parce qu'en fait, on va relayer en fait, ces dispositifs de l'ESPER. Nos 6 présidents de sections départementales relaient à l'ensemble des chefs d'établissement, ainsi qu'à nos 400 correspondants dans les établissements, ces différents moments dans l'année où on essaye de pousser ces projets dans les classes. Le but, c'est de porter à la connaissance de l'ensemble des équipes éducatives de la région ces dispositifs. Et donc, lorsque l'on est sollicité, eh bien, on en profite alors pour proposer les outils de l'ESPER dont a parlé Sophie tout à l'heure, mais aussi les outils que nous avons développés, seuls ou en collaboration avec des partenaires, que nous avons soit cofinancés, soit co-construits ensemble. Alors, je peux en citer quelques-uns. Hein, parmi ces outils, on peut citer par exemple l'exposition ESS Kesako, que l'on met d'ailleurs à disposition de l'ESPER hein, et de ses membres. Donc c'est une exposition en 9 kakémono qui permet en fait une présentation 360 degrés de l'ESS et de ses grandes familles, les piliers, l'économie circulaire et collaborative, les financements solidaires. Et cet outil, hein, ces 9 kakémono que l'on prête aux établissements pour 2-3 semaines est accompagné de livrets pédagogiques, de quiz clés en main, de QR codes vers des vidéos, et on peut aussi l'accompagner de témoignages, en fait, d'un témoignage local. On pourrait citer d'autres exemples de jeux. Alors, ESS Kesako, ça, c'est un outil qui a été développé par MGEN en partenariat avec notamment l'ESPER et l'Éducation nationale. On a un jeu qui s'appelle EVA, entreprise à valeur ajoutée, qui a été en fait développé en collaboration avec l'IRESA, qui est le réseau de l'économie sociale et solidaire de l'Anjou. Mais c'est un jeu qui est présent sur tout le territoire français. Et en fait, là, c'est un jeu de cartes qui s'adapte à tous les niveaux du CM1 à la terminale, où en fait, on place les élèves en simulation d'entreprendre, en fait. Chacun endosse un rôle. Le jeu fait qu'il y a une succession de débats et de prises de décisions qui s'installent. Et en fonction, carte après carte, en fonction des choix qui sont opérés, eh bien, les élèves vont se rapprocher ou s'éloigner de l'ESS. Et ça leur permet, en fait, de comprendre ce mode d'entreprendre qui est différent. En fait.
Alors comment justement ces projets ils sont perçus par les élèves? Ils ont quelle relation justement à ces jeux et à ces expos? Est-ce que leur mentalité change au final? Est-ce qu'ils sont moins dans la valorisation en effet d'un idéal de réussite libéraliste?
Oui, absolument. Alors le retour qu'on peut en avoir des élèves, mais aussi des enseignants, parce qu'on a ce que l'on perçoit immédiatement lorsqu'on fait la séance de sensibilisation, mais il y a aussi les retours qu'on peut avoir ensuite à froid des enseignants. Les retours sont généralement très positifs. Pourquoi ? Bah, parce que déjà, on aborde les choses de manière ludique. Et quand on fait de la sensibilisation, et qu'ensuite les élèves travaillent en mode projet. Et donc, du coup, ils sont directement partie prenante. Ils vivent, en fait. Hein, c'est un laboratoire de démocratie. Hein, ils sont dans l'action, ils sont dans la coopération. Ils prennent des décisions ensemble, ils en débattent. Et ils sont impliqués, puis ils sont généralement très fiers de leur réalisation. Donc, ça fait sens pour eux. Hein, ils perçoivent ainsi davantage les enjeux globaux. Les impacts négatifs de nos modes de vie et de la consommation de masse. Et on peut dire aussi que les sujets les intéressent parce qu'ils vont être à l'initiative. Et puis, ils sont en adéquation avec les aspirations des jeunes pour un monde qui soit plus juste, plus équitable, plus respectueux aussi de l'environnement. Et ils se rendent compte aussi que chacun peut agir pour atteindre ce but-là, d'une plus grande équité, d'une plus grande justice. Et ils se rendent compte que chaque geste, finalement, compte, qu'il n'y a pas de petites initiatives.
Alors, pour clore un petit peu cette émission, en fait, est-ce que vous pouvez nous parler de vos partenaires en région Centre-Val de Loire et puis également des actions qui sont prévues pour cette année 2023-2024 à l'école, à l'université, pour sensibiliser les plus jeunes à l'éducation, à l'économie sociale et solidaire?
Bah écoutez, oui, tout à fait. Nous sommes en période de rentrée, alors les choses commencent tout doucement à se bousculer, à se décanter. Pour l'heure, on a déjà une action qui est prévue au mois de septembre de sensibilisation à l'ESS. On sera présent le 20 septembre au collège Jacques Decour à Saint-Pierre-des-Corps auprès d'une classe de 4e pour le lancement d'une sensibilisation à l'ESS et le lancement d'un travail axé donc sur la coopération, la découverte des différentes familles de l'ESS, mais aussi... l'enseignante souhaiterait, alors après elle va en discuter avec ses élèves parce que le but c'est aussi que les élèves soient partie prenante, mais elle aimerait en fait travailler avec eux sur l'enquête de type journalistique. Donc c'est avec une classe de 4e hein, et c'est Madame Legout, la professeure principale de cette classe qui est enseignante d'histoire, géographie et EMC qui nous a contactés et voilà, avec qui on a pu déjà échanger. Donc c'est une première action, mais nul doute qu'il y en aura d'autres durant cette année-là. Et d'ailleurs, on va profiter, les militants MGEN vont profiter de la rentrée pour, dans leurs interventions, lors des réunions de rentrée, dans les collèges, lycées, réunions d'inspecteurs du premier degré, pousser en fait... À l'initiation autour de l'ESS en lien avec l'ESPER. Ça, c'est pour ce qu'on peut dire pour cette rentrée en termes d'action. Vous posiez la question des partenaires en région centre. Nos grands partenaires, en fait, sont ceux sans quoi rien ne serait possible. Eh bien, ils ont été cités, hein. C'est l'ESPER, c'est la CRES, mais c'est aussi la région et le rectorat. On l'a rapidement dit, je crois, Manon en parlait tout à l'heure, hein, ces quatre entités ont signé une convention de partenariat en 2021 pour 3 ans, qui vise en fait à soutenir et développer les initiatives de sensibilisation à l'ESS, qui vise à sensibiliser les élèves et le personnel éducatif aux valeurs et pratiques citoyennes de l'ESS, à consolider la culture économique et sociologique de tous les élèves, hein, indispensable à la formation de tout citoyen, et à la réussite de tous les élèves, et puis informer aussi les jeunes sur les possibilités d'emploi dans les entreprises de l'ESS. D'ailleurs, je pourrais rajouter sur les actions que l'on mène auprès des jeunes, en tant que MGEN, hein, c'est alors au-delà des interventions qu'on peut faire auprès d'étudiants, je pense notamment les étudiants... infirmiers, aides-soignants en première année, en licence professionnelle, gestion de la protection sociale, où l'on intervient également. À chaque fois, on consacre un volet sur l'ESS et on reçoit des stagiaires également. On les reçoit donc dans nos sections, dans nos établissements de santé, et à chaque fois, on insiste sur l'ESS et ce qui fait notre différence avec les autres.
Je vais prendre le relais. Au niveau des actualités de la CRES Centre-Val de Loire, donc comme l'a dit Olivier, il y aura le lancement du dispositif des ambassadeurs jeunes qui reprendra à partir de la rentrée 2023. Ça c'est très important, une information importante, parce que on a vraiment à cœur de vouloir sensibiliser le jeune public, donc au niveau du premier et du deuxième cycle, à ce que c'est que l'ESS. Il est vrai que pour la plupart des jeunes, qui quand ils sont inscrits dans des clubs sportifs notamment, ils font partie de l'ESS, mais ils ne savent pas que c'est de l'ESS. Donc c'est vraiment notre rôle d'aller leur indiquer, pointer le doigt et faire en sorte qu'ils identifient ce que c'est que l'ESS dans leur quotidien. À côté de ça, au mois de novembre, donc durant le mois de l'ESS, un mois durant lequel tous les acteurs de l'ESS sont invités à mettre en avant leurs actions auprès du grand public, donc faire en sorte de faire connaître leurs actions auprès du grand nombre, nous allons organiser avec Pépite 2 jours, donc avec Pépite qui se situe à Tours, donc l'université de Tours, 2 jours qui s'appellent les Pépites Day, durant lesquels nous allons sensibiliser plus de 200 étudiants à ce que c'est que l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça va prendre la forme de 2 journées entières où elles seront, qui seront scindées en deux. Donc première partie avec du coup une présentation des acteurs de l'ESS, acteurs locaux, et puis deuxième partie sur des ateliers, donc la mise en pratique, la création d'une entreprise, avec bien sûr à la fin de la journée un jury et une récompense au meilleur projet. Donc voilà, au niveau des actualités de la CRES et de l'école et l'ESS.
Eh bien alors, si on veut en savoir davantage en effet sur ce mois de l'ESS également, le site de la CRES Centre Val de Loire, www.cres.
Oui, il y a aussi le site dédié au mois de l'ESS, donc c'est www.moi-ess.org. Et sur ce site-là, il est possible du coup de s'inscrire pour justement inscrire un événement durant le mois de l'ESS. Et de voir également, il y a une carte, de voir tous les événements qui seront inscrits au niveau national durant ce mois de l'ESS.
Ok, merci beaucoup, chers intervenants. Sophie Caldagues, chargée d'accompagnement du réseau national des correspondants régionaux pour l'ESPER. Olivier Ponte-Garcia, responsable des relations institutionnelles et ESS pour la MGEN. Et puis Manon Bongo, chargée de mission sensibilisation à l'ESS pour la CRES Centre-Val de Loire. C'était ESS 117, le magazine consacré à l'économie sociale et solidaire en région centre. On vous remercie beaucoup et c'est très encourageant de commencer en effet par un numéro consacré à l'éducation et à la sensibilisation. Ça nous donne en effet envie de continuer et de peut-être retourner à l'école. Merci beaucoup et puis à bientôt sur Campus.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci.
Alors on
merci
continue. Beaucoup. Ah oui, merci beaucoup. Vous étiez en ligne avec nous, Sophie Caldagues. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.
Alors, on continue avec Five of Cups. C'est un titre de Holy Wave sur Campus. Et à bientôt.